mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 4 novembre. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté du Sahara occidental, cette langue de sable au statut juridique flou qui est en tout cas revendiquée par le Maroc, entre donc la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie. On va aussi aller en Tunisie pour prendre des nouvelles des suites de la mobilisation de la population contre les énormes pollutions dont souffrent les habitants de Gabès, liées notamment aux usines d'engrais qui entourent toute la ville. On va parler des suites de l'affaire de Jérôme Laronze, 8 ans après la mort de cet éleveur, tué de 3 balles par un gendarme. C'était en 2017, l'affaire n'est toujours pas jugée. Et puis quelques petites brèves autour de l'actualité climatique, des luttes écologiques. On parlera aussi de l'avenir du sort, un petit peu macabre pour l'instant, de l'étuve, celui à Pondéro. Et évidemment, on terminera avec aussi les nuages qui s'amoncellent et qui sont toujours là pour l'avenir des radios associatives et donc de votre chère Radio Escapade. Direction tout d'abord donc le Sahara occidental et donc le Maroc de manière factuelle, puisqu'au cours de son vote de ce 31 octobre, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU aux Nations Unies qui a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain pour donc le Sahara occidental. Cela alors que le conflit entre Rabat, donc la capitale du Maroc, et les indépendantistes du Front Polisario qui revendiquent l'autonomie de ce territoire et qui sont soutenus par l'Algérie depuis le début de leur démarche, ce conflit dure depuis un demi-siècle. C'est en effet le 50e anniversaire de la Marche Verte célébrée au Maroc qui a assuré au Maroc justement le contrôle de ce fameux Sahara occidental en novembre 1975. Donc un anniversaire de 50 ans qui explique peut-être pourquoi l'ONU a pris cette décision-là. Eh bien, le Conseil de sécurité donc des Nations Unies vient de corriger spectaculairement sa copie sur ce dossier. Cette résolution donc, du 31 octobre valorise la solution de l'autonomie interne du Sahara occidental au sein du Maroc, qui sont autonomes mais pas indépendants. Ça relègue donc au second plan l'idée de référendum d'indépendance qui est demandé depuis 50 ans par notamment le Front Polisario pour avoir l'indépendance donc, de ce territoire. Le texte de l'ONU estime en effet qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait représenter la solution la plus réalisable. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, l'ONU avait initialement critiqué justement cette marche verte, hein, cette colonisation par le Maroc, au cours de laquelle 350 000 Marocains non armés avaient mis fin à la colonisation espagnole du territoire, le tout sous l'appel du roi Hassan II, qui était alors le roi du Maroc. Cette marche avait déclenché donc un processus de réunion au Maroc, alors que donc le Front Polisario, ce mouvement armé soutenu par l'Algérie, revendiquait une indépendance du territoire et de ce peuple. À l'époque, l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité avaient d'ailleurs refusé d'entériner la réunion par le Maroc. Ils y voyaient une infraction au droit international et une occupation illégale. Ça rappelle d'ailleurs ce qui se passe aussi du côté des territoires occupés d'Israël. Le début du règne d'Hassan II renvoyait donc l'image d'un pouvoir autoritaire entaché par la répression. Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'ONU exigeait alors un référendum qui permettrait aux populations locales de se prononcer. De la main de proclamation à l'époque émanant de tous horizons, exaltant le droit inaliénable des Sahraouis à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc, cette résolution du 31 octobre ne pouvait que surprendre, sauf si, effectivement, on analyse un petit peu plus en détail tout ce qui se joue avec ça. Tout d'abord, un référendum, ça supposerait de définir qui peut voter, qui est donc le corps électoral. Il faut déjà noter que le Maroc encourage fortement à l'implantation de ses citoyens sur ce territoire. Notamment, il le faisait en vue d'un possible référendum et donc de s'assurer un nombre de voix favorables à l'inclusion dans le Maroc. On peut rappeler qu'en 91, au cours du cessez-le-feu, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'échanges armés, une mission de l'ONU a été instituée pour justement calmer un petit peu le jeu. Ça s'appelle la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental. Le sujet s'est avéré redoutable, hein, puisque définir justement qui est ce corps électoral, eh bien, il s'agit pour la principale partie de cette population de nomades hein, qui vivent à cheval sur plusieurs pays, environ 74 000 personnes au dernier recensement espagnol, c'était il y a 50 ans, sur un territoire qui a la taille de l'Italie. On parle de nomades dans le désert. Donc identifier les vrais électeurs sahraouis en 75 s'est révélé impossible. Dès 1999, cette mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum a donc cessé finalement de travailler sur le volet de l'organisation du référendum et s'est juste concentrée sur le maintien de la paix, une forme de casque bleu. L'intitulé donc de la MINURSO qui parle de référendum reste plus théorique qu'autre chose et ça fait déjà 25 ans que ça dure. Si on parle de l'autodétermination des peuples, une notion plutôt difficile à remettre en doute, bien l'ONU en parle beaucoup mais elle s'est montrée quand même beaucoup moins engagée sur les conséquences éventuelles que ça pourrait avoir, notamment cette hypothèse de l'indépendance du territoire. Celle-ci n'a été évoquée que du bout des lèvres. Et pour ce qui est de la création d'un État séparé, carrément, là, c'est une perspective qui n'a carrément même jamais été entérinée. Pour expliquer, du coup, cette posture un peu ambivalente de l'ONU, les défenseurs du Front Polisario pointent la responsabilité, là, de la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et qui a donc un droit de veto. Et ce droit de veto a évidemment servi de bouclier au Maroc. Aucune mesure de contrainte à l'égard du Maroc, n'aurait en effet recueilli l'assentiment de Paris. Ça fait partie des vieux accords diplomatiques entre la France et le Maroc, qui impliquent, vous vous en doutez aussi, des contreparties. Mais même sans cela, de toute façon, l'Assemblée générale des Nations Unies, elle, n'avait vraiment mis en avant cette notion d'indépendance pour les Sahraouis que deux fois, en 50 ans. C'était en 79 et en 1980, donc ça date un petit peu. Autant dire que le projet n'était pas dans les dossiers les plus brûlants des Nations Unies. Et du côté du droit international, c'est vrai que ça pose des questions. Hein. Qui sont ces populations locales? Comment les caractériser? Parce que c'est comme ça, normalement, qu'on détermine si oui ou non un peuple a le droit de revendiquer un pays. Est-ce que ces populations nomades constituent une nation au sens fort, qui pourrait faire un État, ou des populations autochtones, comme il y en a des centaines en Afrique et des milliers dans le monde et qui n'ont pas leur propre État? Ces dernières des populations autochtones peuvent avoir un droit internationalement reconnu, notamment pour la protection de son identité, par exemple la langue, les coutumes, les religions éventuellement, et ils peuvent aussi accéder à une liberté d'administration locale, mais en aucun cas à la création d'un État. C'est donc vers ce type de règlement qu'a priori la résolution de l'ONU va nous mener. Enfin, deuxième interrogation quand même à laquelle il faut répondre, pourquoi le Maroc tient-il tant à ce bout de territoire, hein ? C'est quand même une bande de sable principalement qui longe l'océan. Et surtout, pourquoi la France aussi l'a-t-elle épaulé dans ce désir? Là, il faut remonter un petit peu à l'histoire des frontières hein, d'Afrique du Nord. Que pour le Maroc, ça s'est fait sous la colonisation, plutôt dans des conditions défavorables, si on compare par exemple aux voisins de l'Algérie. Le Maroc est resté longtemps indépendant, jusqu'en 1912. Il était donc alors exposé aux impérialismes européens qui l'encerclaient. Hein, la France, l'Espagne, l'Angleterre aussi, qui étaient présentes sur le territoire. Et le protectorat, ensuite, qui a été institué par le traité de Fès en 1912, devait être provisoire, contrairement au statut de l'Algérie. Et il faut rappeler que le Maroc a connu non pas une, mais deux puissances coloniales, la France et l'Espagne, ce qui a aussi favorisé le morcellement de son territoire, et donc l'envie de gratter un petit peu plus de terre. Les frontières Maroc-Algérie ont donné lieu à maintes péripéties, hein, beaucoup de débats, voire même d'échanges de tirs. On peut parler de la brève guerre des sables hein, qu'a opposé les deux pays en octobre 1963. Bref, une longue histoire compliquée là sur ce territoire. Et donc, eh bien, puisqu'on parle de l'Algérie, d'ailleurs, ce verdict hein, du Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'on revient un petit peu à aujourd'hui, eh bien, ça a été un coup d'assommoir pour la politique algérienne, et la diplomatie notamment, puisque c'est une véritable défaite diplomatique dont il faut parler là, pour l'Algérie. C'est ce que soulignait par exemple le journal Le Matin d'Alger. Jusqu'aux dernières heures avant le vote, Alger a tout tenté pour tenter de mobiliser des soutiens autour du principe de la décolonisation du Sahara occidental. Le texte ne reflète pas fidèlement, ne reflète pas suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation, a déclaré l'ambassadeur algérien suite à la proposition de texte. Il a d'ailleurs refusé de participer au vote. Du côté de du ministère des Affaires étrangères, eh bien, le ministre a multiplié des entretiens téléphoniques avec ses homologues chinois, russes ou pakistanais, qui sont normalement des alliés de la politique algérienne. Et il a espéré ainsi obtenir un front de refus, mais vous l'aurez compris, en vain. Les représentants de ces trois pays au Conseil de sécurité ont préféré s'abstenir, ce qui a donc laissé la voie libre au texte porté par les États-Unis, infligeant donc là un revers à une diplomatie algérienne critiquée en interne beaucoup pour sa raideur en ce moment et qui a l'air de s'isoler de plus en plus de ses anciens alliés. En tout cas, voilà, un beau coup diplomatique, lui, pour le Maroc.
C'était vraiment très intéressant.
On part maintenant en Tunisie. Vous le savez peut-être, depuis un mois, des milliers de Tunisiens se mobilisent pour exiger le démantèlement des usines chimiques de la ville de Gabès. Ces habitants sont victimes de graves intoxications et ils sont exposés aussi à une pollution chronique depuis plus de 50 ans. C'était donc la dernière en date, s'est tenue ce 31 octobre, avec une foule hétéroclite rassemblée pour crier une nouvelle fois sa colère. Le peuple exige le démantèlement des usines. Ça s'est fait devant les grandes usines chimiques au nord de la ville de Gabès. C'est la dernière en date, donc le 31 octobre est une fois de plus parvenu à réunir entre 5 et 7 000 personnes, selon un membre du collectif citoyen Stop Pollution. Ce collectif a été fondé en 2012 déjà, dans ce grand port industriel du sud du pays. Ce mouvement social qui est en cours à Gabès est inédit en Tunisie depuis juillet 2021, date du coup de force institutionnelle du président actuellement au pouvoir, Kais Saied. En plus des marches pacifiques, la ville de Gabès a été le théâtre de plusieurs nuits d'émeutes en octobre, lors desquelles des dizaines de manifestants ont été arrêtés, je vous en avais parlé à ce micro. À l'origine de la révolte, donc, vous l'aurez compris, une série d'intoxications qui touchent la population depuis le 9 septembre, mais ça remonte, il faut remonter à bien plus longtemps. Pour les récentes, ça a entraîné l'hospitalisation de plus de 300 personnes avec des symptômes qui vont de difficultés respiratoires à des pertes de connaissances carrément, voire des paralysies. Et ces symptômes ont touché notamment des adolescents qui étaient en classe dans leur collège, hein, environ 120 victimes. C'est ce qui a fait exploser la colère le 10 octobre dernier avec ces dizaines de collégiens envoyés aux urgences et les villes plongées comme très souvent dans les gaz irrespirables. Les manifestants au cours de ce 10 octobre s'étaient alors introduits à deux reprises sur le site du GCT, ce qui est pourtant une zone protégée par l'armée. Ils en ont d'ailleurs été délogés par les gaz lacrymogènes. Même si aucune explication officielle n'a encore été fournie sur l'origine des incidents, tous les habitants attribuent les intoxications évidemment à des émanations de gaz depuis ce gigantesque complexe du GCT. C'est le groupe chimique tunisien. C'est une entreprise publique qui est installée au nord de la ville depuis les années 70. Ces usines sont spécialisées dans la transformation du phosphate et de ses dérivés, puisque les usines polluent l'air et l'eau de Gabès depuis leur entrée en activité. Suite à un premier cycle de mobilisation qui a eu lieu après la révolution de 2011, le collectif Stop Pollution et les habitants avaient obtenu l'engagement du gouvernement justement de déplacer ces usines loin des zones habitées. Cet engagement remonte à juin 2017. Jusqu'alors, aucun mouvement ne semble se faire dans ce sens, ce qui avait aussi été à l'origine de manifestations au printemps 2025. Les habitants dénoncent par ailleurs l'implication de l'Allemagne dans le développement d'unités de production d'hydrogène et d'ammoniac vert. Et oui, car l'écologie est là à bon dos, parce que la production décarbonée de ce fameux hydrogène et ammoniac a rejeté malheureusement encore une fois de lourds polluants dans l'environnement de la ville. Donc pour des fois décarboner ou verdir l'industrie européenne, ce sont d'autres pays qui en subissent les conséquences. En 2023, d'ailleurs, une enquête du média Vakita révélait aussi que le groupe français, le groupe Roulier, était lui aussi un important acheteur de ces engrais du GCT. Cette entreprise française dispose d'ailleurs toujours d'usines à Gabès qui produisent des compléments alimentaires phosphatés, là destinés aux animaux d'élevage. En plus de l'implication donc d'acteurs étrangers, la colère des habitants de Gabès est surtout alimentée par l'absence de réaction ou alors de réaction violente de la part des autorités tunisiennes. Le président a reconnu le 17 octobre dernier la nécessité de trouver des solutions urgentes et immédiates, mais dans le même temps, il fustigeait la présence de comploteurs parmi les manifestants. le tout sans apporter de réponse concrète à la crise des intoxications. Donc, de nouvelles manifestations devraient avoir lieu en novembre.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
On a parlé élevage intensif avec les engrais phosphatés. Ben justement, on reste un petit peu, on tire ce fil et on revient en France avec les suites de l'affaire Jérôme Laronze, qui lui, eh bien, plutôt faisait tourner une petite exploitation en Saône-et-Loire et qui est mort il y a maintenant 8 ans. En effet, cette affaire ne finit pas de ne pas se régler, justement. Plus de 8 ans après la mort de cet éleveur, Jérôme Laronze, qui travaillait dans le département de la Saône-et-Loire, c'était le 20 mai 2017, il a été tué de 3 balles par un gendarme. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Et aujourd'hui, les proches craignent justement un non-lieu et qu'il n'y ait finalement jamais de procès. C'est un reportage réalisé par le média Bastamag. La sœur de Jérôme Laronze, Marie-Pierre Laronze, une de ses sœurs, est très éprouvée par ces années de procédure, était donc présente à un rassemblement au cours du mois d'octobre. Elle expliquait avoir été informée au printemps d'une possible destruction des scellés qui recoupent toutes les pièces à convection saisies pendant l'instruction. Très concrètement, donc, la juge d'instruction qui est en charge du dossier propose de détruire les douilles de balles qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Et même des douilles de balles qui ont été retrouvées 6 ans après les faits, je vais vous expliquer, à un endroit qui contredit justement la position annoncée du gendarme tireur, qui lui revendique sa légitime défense. Et ces balles ont aussi, d'ailleurs, dans les scellés, il y a aussi la voiture criblée de balles dans laquelle l'éleveur est mort. Donc ces douilles sont, vous l'aurez compris, fondamentales pour comprendre ce qui s'est précisément passé le jour de la mort de l'agriculteur et pour la famille et ses proches, eh bien, obtenir justice. Je rappelle quand même les faits, c'est à la suite d'un énième contrôle où son cheptel de vaches devait être confisqué que l'éleveur avait fui sa ferme. Recherché pendant 9 jours, il a été retrouvé par 2 gendarmes dans un chemin de terre, probablement endormi au volant de sa Toyota. 5 balles ont été tirées par un gendarme en 7 secondes, selon l'enregistrement sonore du taser que portait ce gendarme. 3 balles ont été fatales à Jérôme Laronze. Selon la version de ce gendarme, l'auteur des tirs mortels, l'agriculteur aurait foncé sur lui. Son avocat défend donc la légitime défense. Mais les experts et la balistique suggèrent, elles, d'autres pistes, puisque aucun impact frontal n'a été relevé dans le capot, donc il n'a pas visiblement pas tiré sur l'avant de la voiture qui aurait foncé sur lui. Une balle a atteint l'éleveur par la fenêtre conducteur et 2 autres ont traversé le pare-brise arrière, ainsi que le dossier de son siège pour le frapper dans le dos. Lors des investigations qui avaient été menées en 2017, 4 de ces douilles n'avaient pas été retrouvées. Suite à la plainte de la famille, donc la juge d'instruction a fini par renvoyer une nouvelle équipe 6 ans après, quand même en novembre 2023, pour retrouver ces fameuses douilles. Et ils en ont trouvé 5 sur place, donc ça valait quand même le coup d'envoyer quelqu'un. Les parties civiles demandent donc désormais des expertises complémentaires avec ces nouvelles preuves. Notamment les douilles qui permettraient de comprendre la scène de crime, où se trouvait l'éleveur et où se trouvait le gendarme. Ce sont des éléments objectifs dans une enquête de ce type, soutient toujours la sœur de Jérôme Laronze. Donc cette annonce possible de la destruction des scellés, avec les douilles, par la juge d'instruction, a été reçue comme un coup de massue par la famille. Quelle est la conclusion à laquelle il faut arriver ? Que la justice ne veut pas instruire dans ce dossier ? Se demandent ses soutiens. Donc toutes celles et ceux qui ne veulent pas justement qu'on enterre l'affaire s'étaient réunis, c'était le 9 octobre dernier, devant la cité administrative de Mâcon, et ce à l'appel de la Confédération paysanne, puisque Jérôme Laronze était un porte-parole départemental de cette confédération, de ce syndicat. En France, en 2025, le porte-parole d'un syndicat minoritaire peut être abattu par un gendarme en toute impunité. Ce sont quelques-uns des mots qui ont été déclamés au mégaphone au cours de ce rassemblement. Se battre contre la justice et la gendarmerie, c'est exténuant aussi, a témoigné une autre sœur de Jérôme. Elle et son compagnon ont d'ailleurs depuis repris la ferme de leur frère et elle ne renonce pas non plus sur la bataille juridique. Elle rappelle d'ailleurs avoir eu 2 belles victoires ces dernières années. La première à travers le tribunal administratif qui a jugé les contrôles irréguliers et abusifs, ces fameux contrôles que subissait l'éleveur et qui l'ont mené a priori une fuite, il devait être en état de burn-out ou en tout cas de grosse panique et qui a finalement abouti à sa mort. Pour ce qui est des contrôles, en 2020, le tribunal administratif de Dijon avait en effet jugé illégaux plusieurs de ces contrôles subis avant sa mort, notamment par la manière dont ils étaient menés avec de beaucoup de personnel armé. Et par ailleurs, la défenseure des droits, elle aussi a été contactée par la famille et elle en cause la version des tirs de légitime défense avancée donc par la gendarmerie. Elle considère en effet, dans une décision du 23 décembre 2024, que les tirs mortels du gendarme étaient disproportionnés et pas absolument nécessaires, puisqu'il y avait l'absence de danger actuel et imminent, donc c'était une infraction. Voilà, aujourd'hui, donc plusieurs scénarios se dessinent dans cette affaire. Si la juge d'instruction accepte les investigations complémentaires, l'information judiciaire sera relancée. Mais la juge peut aussi décider de renvoyer le gendarme devant la cour criminelle directement pour qu'il soit jugé pour homicide sans nécessairement avoir d'investigation complémentaire. Le troisième scénario serait une ordonnance de non-lieu, ce qui voudrait dire que l'affaire ne déboucherait même pas sur un procès, puisque la juge d'instruction considère que les conditions d'ouverture du feu ont été régulières. Les parties civiles, elles, font appel de cette décision de destruction décellée. L'audience se tiendra à la cour d'appel de Dijon le 13 novembre.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on va parler un petit peu du climat avec la COP30 hein, qui va débuter au Brésil ce 10 novembre. Le message a le mérite de la clarté. Les États-Unis n'enverront pas de délégation officielle. Point barre. Conformément à leur positionnement climato-dénialiste, l'administration états-unienne et Donald Trump à sa tête ont en effet annoncé ce 1er novembre que les États-Unis s'en tiendraient au strict minimum dans leur représentation à la grand-messe climatique. Il n'y aura donc pas de représentants des États-Unis d'Amérique de haut niveau, a prévenu Washington. Le président Trump séchera lui aussi cette grande réunion internationale. Récemment, d'ailleurs, il a qualifié le changement climatique de plus grande arnaque jamais menée. L'administration justifie ainsi son choix. Le président dialogue directement avec les dirigeants du monde entier sur les questions d'énergie, comme en témoignent les accords commerciaux et les accords de paix historiques qui accordent tous une place importante au partenariat énergétique. Énergie énergétique, on notera bien l'absence des mots environnement et climat dans leur réponse. Et pendant ce temps, on a parlé des États-Unis, on part au Vietnam. Le Vietnam a subi, lui, depuis une semaine, une crue historique et meurtrière. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations majeures et de nombreux glissements de terrain. Au moins 35 personnes sont mortes, 26 000 habitants ont dû être évacués, au moins 5 000 hectares de culture ont été détruits et plus de 16 000 bovins tués. Ces chiffres sont donnés par le ministère de l'Environnement. Enfin, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, les villes de Hue et Hoi An, je ne sais pas si je le prononce bien, ont elles été submergées. Près de 120 000 maisons ont été inondées à travers le pays, selon l'autorité vietnamienne de la gestion des catastrophes. Si ce pays d'Asie du Sud-Est est lui aussi régulièrement victime des typhons et des inondations, les événements climatiques sont rendus encore plus dévastateurs par les effets du changement climatique, estiment eux les scientifiques. En France, ce samedi 1er novembre, à Thiviers, en Dordogne, entre 200 et 300 personnes étaient réunies pour s'opposer à l'extension de la carrière de quartz de l'entreprise Imerys. 4 hectares de bois ont déjà été abattus le 22 octobre dernier et les militantes et militants avaient donc besoin de se réunir pour se faire du bien. Tout le monde était fatigué et meurtri après des semaines de vigie sur le terrain pour suivre le chantier, explique par exemple François, un membre de l'association d'opposants Sauvegardons Razac et le bassin de la Caule. Et il s'exprimait au micro des journalistes du média Reporter. Le géant minier Imerys veut en effet créer une nouvelle carrière sur 40 hectares de parcelles boisées et agricoles pour en extraire à sec des galets de quartz qui sont récupérés sur plusieurs mètres de profondeur. L'idée, c'est d'extraire ensuite de ce quartz du silicium. Contacté par Reporter, l'entreprise Imerys assure de son côté avoir reçu toutes les autorisations de la préfecture pour son projet. Ces autorisations, dit-elle, sont le fruit d'un long et exigeant processus avec étude d'impact environnemental. Aucune date de début d'exploitation n'est d'ailleurs pour le moment prévue. Et du côté de la préfecture, on assure que l'ensemble des aspects environnementaux a été pris en compte avant d'autoriser cette carrière. Le combat des écologistes donc contre Imerys continue et débute là-bas, mais il ne se limite pas à la Dordogne. Parce que sur place, des représentants d'autres associations qui luttent aussi contre des mines étaient venus en soutien. Par exemple, depuis le Cantal, ou la Bretagne et l'Allier, mais aussi Paris, avec des représentants exilés qui, eux, luttent contre des mines en Colombie ou au Congo. C'est la même entreprise, c'est la même méthode partout. Se relier permet de renforcer toutes les luttes, expliquait Chantal, la représentante du collectif de sauvegarde de la Narse de Nouvial. Je ne sais pas où c'est, malheureusement. En Bretagne, sinon, c'est une mine d'andalousite qui va inquiéter les riverains de la commune de Glomel. Dans l'Allier, la lutte s'intensifie là aussi contre un projet de mine de lithium. Et si vous allez sur l'article que je vous partage depuis les colonnes de reporters, vous avez des liens pour aller lire aussi de quoi il est question dans chaque cas. Une table ronde a suivi la manifestation au cours de laquelle les intervenants ont ainsi insisté sur l'ampleur internationale de chaque lutte locale. Ce que l'on considère ici comme un mode de vie normal est lié à l'extractivisme, à énormément de pollution et à de très nombreux morts, expliquait Juan Pablo Gutiérrez, qui lutte lui contre les mines de charbon en Colombie. Et il fait référence, notamment pour ce qui est des nouveaux minerais, à l'explosion des objets connectés et de toutes ces nouvelles technologies. Ce qui est extrait ici ne va pas remplacer une mine ailleurs. Au contraire, les exploitations s'additionnent. Lutter ici, c'est aussi lutter pour limiter l'extractivisme ailleurs, a enfin dit Étienne, lui un représentant de Stop Mine 03, donc pour l'Allier. Les collectifs locaux, on reste dedans et on revient dans le très local avec ce communiqué de nos amis du lieu dit L'Étuve à Pondéreau. En ce mois d'octobre 2025, le bâtiment de L'Étuve a fait l'objet d'un contrôle ERP, contrôle concernant les établissements recevant du public. La sous-préfecture du Vigan, celle d'Alès, l'aménagement du territoire, la mairie de Sumène, ainsi qu'une délégation de pompiers et de gendarmerie, ça faisait une quinzaine de personnes, ils sont donc venus visiter et ont annoncé une fermeture administrative stricte du lieu dans sa totalité, y compris des espaces qui n'étaient pas ouverts au public, et ce pour une durée indéterminée. L'Étuve avait déjà subi un tel contrôle, c'était en 2020, à l'époque un avis défavorable avait été émis. Une négociation avec la mairie de Sumène ensuite avait été conduite et une dérogation accordée contre un engagement à effectuer des travaux de mise aux normes et à limiter l'accueil du public, notamment pour ce qui était des concerts et des soirées festives. Pendant ces 5 années, donc, l'Étuve était un peu en sursis et les quelques aménagements effectués n'ont évidemment pas suffi, tant la mise aux normes de ce vieux bâtiment industriel représente un investissement colossal. Et l'Étuve est juste locataire de l'espace qui était anciennement une menuiserie. Ce nouveau contrôle, donc en 2025, avec l'intervention directe de la sous-préfète du Vigan, s'est emparé de toutes ces failles pour atteindre les objectifs affichés, c'était faire fermer le lieu. La problématique reste aujourd'hui inchangée. Envisager une mise en conformité du lieu représenterait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Malgré tout, explique ceux qui ont écrit ce communiqué, nous sommes conscients que des améliorations seraient nécessaires pour prendre mieux en compte les questions de sécurité dans le bâtiment. Mais avec cette décision de fermeture administrative, rappelle-t-il, différentes activités sont clairement mises en péril et pourraient même disparaître. Sont citées la présence d'un local de répétition de musique, où répétaient 3 groupes et ponctuellement d'autres. Il y a aussi des cours de musique qui étaient dispensés toutes les semaines dans cet espace. Il y a également une salle qui était d'un dojo, donc un lieu d'entraînement d'arts martiaux avec du sport tous les soirs de la semaine. Une cantine, les cantines du jeudi que vous connaissez certainement, avec des repas cuisinés tous les jeudis pour 50 personnes et ce à prix libre. Et enfin, la partie ouverte de l'Étuve, donc des concerts, des discussions, des rencontres ponctuelles, tout en sachant qu'il y a aussi à l'étage des ateliers privatifs, donc occupés par des individus qui mènent diverses activités, souvent artisanales, pour leur propre compte. Donc, tout ça est fermé. Les occupants et utilisateurs de l'Étuve sont dégoûtés de cette fermeture, ce sont leurs mots, puisque pour le moment, en plus, aucune solution alternative n'a été proposée, que ce soit par la mairie de Sumène ou par la sous-préfecture. Une solution qui pourrait prendre en compte l'ensemble des activités. Et si c'était le cas, les utilisateurs de l'Étuve sont bien conscients qu'ils y perdraient forcément en liberté d'agir et de s'organiser. Ils constatent donc de leur part, de la part des autorités, une volonté de nier l'immense richesse de ce lieu. Car, rappelle-t-il, l'Étuve a joué un rôle local important en créant du lien social, en proposant des espaces d'échange. C'est devenu un repère, un lieu repère pour de nombreuses personnes. Pour eux, tout cela s'inscrit dans une attaque systématique et croissante contre tout ce qui ne va pas dans le sens de l'État et d'une logique marchande. Les autorités montrent leur obstination à vouloir les faire disparaître d'un décor où l'étuve n'est pas la bienvenue, en cherchant à en invisibiliser les idées et les pratiques. Rappeler les bases aussi quand même anticapitalistes, antifascistes et globalement non marchandes de ce lieu. Par ce texte, donc, les auteurs refusent que la fermeture de l'étuve se fasse en silence. Ils expliquent ne pas savoir encore comment cela va continuer. Tout en cherchant des pistes collectives, ils nous tiendront au courant au fur et à mesure de leurs avancées. Le souhait, en tout cas, collectif est émis de continuer à faire vivre l'étuve, et ce, pour l'instant, malheureusement, hors des murs. Voilà, et écoutez, on va terminer ces nouvelles du monde avec un communiqué qui a été fait aussi sur la baisse drastique des budgets. Vous l'entendez régulièrement tourner sur nos ondes. Siam, qui est notre coordinatrice, était hier interviewée dans l'émission Alter Midi de Jean-Marie pour donner quelques nouvelles justement de la mobilisation au niveau national.
My radio, oui, on my radio, mais les radios locales sont en danger. Le projet de loi en 2026 de finances envisage une baisse de 16 millions d'euros du FSR, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, soit 44% du budget. Aujourd'hui, la Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres alertent sur la situation d'une gravité sans précédent à laquelle fait face le secteur radiophonique associatif. Cette baisse de 16 millions menace de disparition plus de la moitié des radios associatives et 80% des emplois du secteur. 2400 postes directs et indirects seraient menacés. À noter que cette décision intervient alors que les secteurs associatifs et culturels, dans leur ensemble, sont déjà étranglés par la baisse des soutiens publics. Donc la réplique doit être massive. Et là, on a Siam aujourd'hui qui fait la technique, qui est la directrice de Radio Escapade, et elle est aussi coprésidente du Syndicat national des radios associatives. Alors Siam, puisque tu es de l'autre côté de la vitre, là, tu peux nous dire où on en est à peu près au niveau de la mobilisation.
Tu en profites effectivement que je fasse ta technique pour m'interviewer, c'est pas mal Jean-Marie. Bon, déjà d'abord, merci un peu quand même pour ce sujet là dans Alter Midi en escapade aujourd'hui. Écoute, la mobilisation, effectivement, depuis le 14 octobre, lorsqu'on a appris justement les nouveaux montants du PLF 2026, hein, donc, qui indique moins 44% pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc grosse mobilisation, ce qui fait que on a eu plusieurs députés qui ont déposé des amendements. Donc comme tu le disais, hein, je suis coprésidente de la Confédération nationale des radios associatives. On travaille main dans la main avec le SNRL, qui est l'autre syndicat, et on a fait une demande de porter un amendement à 18 millions, ce qui ferait que l'enveloppe du fonds de soutien reviendrait à 38 millions, c'est-à-dire à la hauteur de 2024, puisque ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même plus de 770 radios associatives en France. Donc il y en a partout, hein, sur le moindre petit territoire rural, en montagne, en ville. Et que ça nous paraissait quand même important de revenir à des montants corrects. Alors, 6 amendements déposés le jeudi 30 octobre. Ça a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale jeudi soir très très tard, à 23h30.
Qui est plutôt une bonne nouvelle, du coup.
Voilà, qui est une toute petite première victoire, puisque maintenant, puisque ça a été adopté, donc c'est remis en débat, et ça doit l'être justement à l'Assemblée nationale le 7 novembre. Et suite à ça, voilà, il y aura deux hypothèses. C'est soit c'est adopté le 7 novembre et donc après ça repart en débat et ça s'est voté dans tout le PLF 2026, ou soit ça ne l'est pas adopté et là il va falloir encore repartir avec la sollicitation des députés et parlementaires. Donc voilà, donc on a toujours chaque radio associative met à disposition des bénévoles, des auditeurs, des exemples de courriers. Donc voilà, donc nous on a eu déjà des auditeurs qui nous ont écrit pour avoir l'exemple. Donc voilà, Radio Escapade, on reste mobilisé, on reste dispo, parce que c'est vrai qu'en tous les cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est 4 salariés et ça sera plus du tout possible. Et c'est plus d'une quarantaine de bénévoles qui font vivre l'antenne quand même.
Donc il faut se mobiliser, et vous pouvez aussi écrire aux membres de la commission des finances en vous inspirant du kit à télécharger sur le site du Syndicat national des radios libres. Votre courrier sont à envoyer à l'adresse. Alors il faut que je la retrouve, cette adresse, où est-ce qu'elle est passée, où vous êtes le membre de la commission des finances nationales, 126 rue de l'Université, 75 355 Paris SP 07.
Maintenant il faut nous écouter. Est-ce que là on en a gros?
On en a gros.
Voilà, par pas le sens de l'humour. C'est tout ce qui nous reste. On termine avec un hommage funéraire. C'est la période. Là, c'est vraiment. C'est l'automne. C'est la fête des morts qui arrive, on va dire ça. Un autre chanteur régional et internationalement connu et parti. C'était ce jeudi 30 octobre. C'était Eric Marchand, un chanteur de la musique de Bretagne et d'ailleurs. Avec ce chanteur et clarinettiste, disparaît ainsi la plus belle voix qui s'exprimait en breton et un acteur central du métissage musical. Puisqu'en effet, au cours de sa longue carrière, il a œuvré à faire dialoguer les folklores bretons, mais aussi ceux du monde entier, de l'Inde à la Nouvelle-Orléans, en passant par la Roumanie. On peut citer des projets avec Kitty Robin, et plus récemment un projet assez fou de la Cresbrays Academy, une formation par an, avec donc à chaque fois un nouveau groupe d'artistes d'horizons différents, qui permettait d'explorer toutes les rencontres possibles musicales, que ça aille vers l'Occitanie, les rivages de Turquie, ou bien même les musiques électroniques. Eric Marchand s'est donc éteint ce jeudi 30 octobre à Caransebeș, une ville du Banat. On est à l'ouest de la Roumanie. Il venait de fêter ses 70 ans et il est donc mort pas loin de ses attaches, hein, puisqu'il considérait en effet cette région comme son deuxième pays et sa famille d'adoption. On va donc écouter en hommage, et bien justement, Eric Marchand et le Taraf de Caransebeș avec le morceau Toniu Hir da Filiene Dragomir. Je ne sais pas si j'ai dit bien ça, mais vous allez voir comment justement le métissage peut créer des merveilles.
Et l'étoile noire
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.